Donc voilà l'inégalité quand même fondamentale de cette société coloniale. Il me reste 20 minutes. Un quart d'heure. Alors, ça c'est en manière de statut juridico-politique, et le récit des occasions manquées dont je vous parlais, c'est le récit des réformes manquées à chaque fois pour essayer d'améliorer le statut des Algériens. Il y a quand même eu une réforme importante en 1919, où à la suite finalement du loyalisme et de la participation des Algériens à la Première Guerre mondiale, à part l'insurrection des Aurès que j'ai mentionnée, il y a une loi qui étend la représentation des Algériens dans les institutions locales. En fait, cette loi permet à 400 000 Algériens, des hommes, de devenir citoyens et d'élire des représentants dans toutes les institutions locales, les conseils généraux, les mairies, etc. Voilà. Et à ce moment-là, point important, on supprime un certain nombre de mesures discriminatoires que je vais vous présenter maintenant. Alors, cette frontière juridico-politique, donc on l'a vu dans les statuts que je viens d'expliquer, il faut dire qu'elle s'étendait aussi en matière répressive, hein, et ça c'est le cœur de mes travaux. Je suppose que vous avez entendu parler du fameux code de l'indigénat. Très rapidement, parce qu'en fait c'est une matière très 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 complexe, l'idée de ce qu'on devrait plutôt appeler le régime pénal de l'indigénat, c'est qu'il était légitime qu'il existe des mesures répressives applicables uniquement aux indigènes, entre guillemets, c'est-à-dire aux sujets français. Hein ? Ces mesures, quelles étaient-elles ? Il y avait l'internement administratif sur lequel j'ai travaillé. L'internement administratif, concrètement, c'est une mesure décidée par le gouverneur général et qui pouvait prendre trois formes. En tout cas, jusqu'en 1903, il y avait à Calvi, en Corse, un dépôt des internés arabes, qui était un héritage de la guerre de conquête, je vous passe les détails. Le gouverneur général pouvait interner des Algériens à Calvi dans ce dépôt, sur simple décision du gouverneur général. Ça ne passe pas par la justice, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'instruction, rien du tout. L'administrateur de la commune X fait un rapport en disant qu'un tel manifeste un esprit d'insubordination, qu'il incite les autres à ne pas payer l'impôt, ou bon, toute une série de motifs, et l'internement administratif, donc une des formes, ça pouvait être ça. La deuxième forme, c'est qu'il y avait des pénitenciers agricoles réservés aux internés. Il y en avait trois jusqu'en 14-19. Il y en a un qui reste en vigueur jusqu'en 19. Et la troisième forme, c'était d'être assigné à résidence dans une autre commune, donc d'être en fait déplacé de force. Voilà, ça c'est décidé par le gouverneur général, sans contrôle judiciaire. C'est contesté à l'époque, ça il faut toujours le rappeler. Là je vous parle des environs de 1900, et vous avez des républicains français qui expliquent que c'est pas du tout normal qu'il y ait des mesures comme ça complètement dérogatoires à tous les principes du droit français. Il y a des mouvements de contestation, hein, mais de fait, ça existe. Et... voilà, alors il y a l'internement administratif dans le régime pénal de l'indigénat. La deuxième mesure, c'est le séquestre des biens. Le séquestre des biens, c'est quand on vous confisque la propriété d'un bien, on ne vous le confisque pas forcément totalement. C'est-à-dire, en général, quand je vous dis bien, c'est une terre, c'est un bien immobilier. Si la terre est propice à l'installation d'une culture de colonisation, on expulse carrément le propriétaire. Si la terre ne présente pas d'intérêt majeur en termes de culture, de colonisation, c'est pas très fertile, c'est pas intéressant, le propriétaire continue d'avoir la jouissance de la terre, mais on lui a confisqué la propriété et il doit payer pour racheter sa propriété. On appelle ça des soultes de rachat. Le séquestre des biens, c'est une mesure qui a été énormément utilisée dans la répression des insurrections, mais qui est encore utilisée dans les années 1890-90 dans la répression des incendies de forêt. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a la dépossession foncière et qu'on retire aux Algériens des biens, notamment les forêts et les usages traditionnels des forêts, comme toujours dans les sociétés rurales, vous avez des incendies de forêt, et le séquestre des biens est une des formes de répression des incendies de forêt. Forêt, c'est inscrit dans une loi de 1874 sur la répression des incendies de forêt, en Algérie. Donc, séquestre des biens, insurrection et les incendies de forêt. Vous avez des amendes collectives, c'est-à-dire qu'on n'inflige pas une amende de façon individuelle, mais à une communauté. Et puis, dernier pan du régime pénal de l'indigénat qui est certainement le plus important et qui est le seul à avoir été clairement légal, ce sont les pouvoirs disciplinaires des administrateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que les Algériens vivaient majoritairement dans des vastes communes mixtes avec un administrateur. L'administrateur disposait de pouvoirs disciplinaires, c'est-à-dire du pouvoir d'infliger des amendes et des jours de prison pour réprimer toute une liste d'infractions spéciales. Alors, là aussi, ça se passe sans procédure, sans juge, c'est simplement l'administrateur qui constate tel ou tel fait et qui, donc, le réprime par des jours d'amende ou de prison. Il y a une liste qui est établie. Et donc, dans les années 1890-1914, 1910, pardon, pour lesquelles on a des statistiques, ce sont 22 à 25 000 punitions qui sont infligées ainsi par an. À partir de 1897, les administrateurs ont eu le droit de convertir les peines d'amende et les jours de prison en journées de travail sur les communes. Et sur la période 1898-1910, ce sont près de 600 000 journées de travail qui ont été infligées aux Algériens par des administrateurs de communes mixtes. Hein, donc on voit bien là l'ampleur de l'usage de ces pouvoirs disciplinaires. Alors, il y a eu une loi pour les réglementer, c'était très discuté. En gros, les termes du débat, c'est que les partisans des pouvoirs disciplinaires expliquaient que, étant donné la faiblesse de l'implantation des institutions françaises en Algérie, on ne pouvait pas toujours tout transférer à la justice. La justice était trop peu développée, les magistrats trop peu nombreux, donc il fallait donner des moyens de répression plus rapides. Et puis, il y avait aussi des arguments relatifs à l'état de civilisation des indigènes. En gros, ils ne comprennent pas les subtilités de la procédure judiciaire. Ce que nous considérons comme des garanties, eh bien, eux, ils prennent ça pour de la faiblesse, et donc la procédure judiciaire, ce n'est pas efficace contre eux. Il faut un système de sanctions immédiat, implacable, sans ces garanties. Voilà. Hein. D'un autre côté, évidemment, vous imaginez bien, ça, ce sont des lois qui sont votées au Parlement. Il y a des gens qui disent quand même, on est en République, c'est un petit peu gênant, ce des régimes dérogatoires à nos principes généraux du droit. Et donc, le résultat, c'est qu'en fait, on décide que la loi, elle est votée provisoirement. La première fois qu'une loi est votée pour réglementer les pouvoirs disciplinaires, c'est en 1881. Les administrateurs ont les pouvoirs disciplinaires pour 7 ans, jusqu'en 1888. Parce que les députés, en gros, ce qui l'emporte, c'est l'idée que, bon, c'est quand même pas tout à fait cohérent avec le régime républicain, mais en même temps, on ne peut pas laisser les autorités coloniales dans l'impuissance face à cette société algérienne. Donc on admet les pouvoirs disciplinaires, mais dans 7 ans, on regarde où on en est. Hein, et si la justice est plus solide, les magistrats sont plus nombreux, eh bien peut-être qu'on pourra supprimer les pouvoirs disciplinaires. Et en fait, de reconduction en reconduction, les pouvoirs disciplinaires des administrateurs ont été maintenus jusqu'en 1927. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de résistance peu visible. C'est que quand on s'intéresse au fait que réprimaient les administrateurs, on voit bien quand même des formes de résistance. Par exemple, je vous disais, un Algérien qui va aller s'obstiner à labourer une terre que les Français lui ont retirée, ben dans la liste des infractions spéciales à l'indigénat que les administrateurs pouvaient réprimer, il y avait le fait de ne pas respecter la législation foncière. Et donc vous avez des paysans qui régulièrement se voient infliger des peines d'amende ou des jours de prison parce qu'ils ont continué à aller travailler une terre qui leur avait été retirée mais qui n'avait pas été concédée. Ou bien vous avez ceux qui vont incendier la première récolte du colon, etc. Voilà. Le motif majeur d'usage des pouvoirs disciplinaires, cependant, c'est la répression de toutes les résistances à l'impôt, que ce soit la dissimulation de matière imposable ou le retard dans le paiement de l'impôt. Un dernier mot, et j'en aurai fini sur ces déséquilibres juridico-politiques. Je vous ai dit que les pouvoirs disciplinaires des administrateurs disparaissaient en 1927. Je viens de vous dire à l'instant que le motif majeur de répression, ce sont finalement des infractions à la fiscalité. Il y a un élément fondamental pour comprendre qu'on arrête finalement de reconduire les pouvoirs disciplinaires des administrateurs, c'est qu'en 1919, quand il y a une amélioration du statut des Algériens, on supprime ce qu'on appelait les impôts arabes. Donc ça aussi, c'est une c'était une discrimination fondamentale. Il se trouve que quand les Français sont arrivés en 1830, évidemment, on n'a pas tout de suite déclaré en Algérie les lois françaises et transféré un système français. Donc il y a des années et des années de transition. Et dans un premier temps, ce que les autorités françaises ont décidé de faire, c'est de reconduire les impôts que les Ottomans percevaient avant eux. Donc on décide ça en 1830 et donc on continue de prélever au nom de l'autorité française les impôts que les Ottomans percevaient avant. Et on appelait ça les impôts arabes. Mais par la suite, quand on a pris des mesures pour appliquer en Algérie la fiscalité française telle qu'elle existait en métropole, elle n'était pas copiée à la lettre, mais on transférait en Algérie un certain nombre de dispositions du droit fiscal, on n'a pas supprimé les impôts arabes. Et donc jusqu'en 1919, les Algériens étaient soumis à une double imposition, les impôts arabes plus la fiscalité française. Et donc la question des entorses à la fiscalité, elle est directement liée à une vraie difficulté de payer. Et en 1919, dans la loi que j'ai évoquée précédemment, on supprime les impôts arabes. Et donc forcément le joug fiscal s'allège et de fait ce motif majeur de répression disparaît puisque maintenant ça devient un peu moins difficile de payer les impôts qu'on réclame. Je caricature un tout petit peu, mais à la hache et pour aller vite, c'est quand même de cette façon-là que ça s'est passé. Alors, dernier point, j'ai 5 minutes. C'est pas très grave puisque Annick reviendra sur la société coloniale la semaine prochaine. Donc tu pourras compléter, voilà. Moi, il y a une chose qui m'a toujours frappée, donc c'est mon troisième point très très vite, y compris parce que j'ai commencé à travailler sur la période de la guerre d'indépendance, c'est que finalement, lorsque les Français d'Algérie parlent de l'Algérie française, ils ne parlent finalement, bien évidemment, c'est normal, c'est absolument pas un reproche, uniquement de ce qu'ils en ont connu. Or, il faut bien avoir en tête qu'il y a un déséquilibre fondamental dans la répartition spatiale des populations qui explique la façon dont les Français d'Algérie peuvent parler de l'Algérie française et qui est en contradiction avec ce que des Algériens peuvent en dire ou ce que l'on peut en voir dans les travaux historiques. Je m'explique. En gros, en 1954, vous avez une population française d'Algérie qui est très majoritairement urbaine. 80%, je vous le cite de tête, parce que j'ai pas, voilà, 80% ou plus, ou les trois quarts, on est dans ces proportions-là. Les Algériens, c'est le contraire. Les trois quarts vivent à la campagne. Donc ça veut dire que les lieux de rencontre, ils étaient déjà spatialement très limités. Et donc, alors, le caractère urbain de la population européenne, c'est une constante de l'Algérie coloniale. L'histoire de l'Algérie coloniale, c'est aussi l'échec de la colonisation foncière. Certes, il y a des grandes propriétés qui se constituent sur la dépossession du sol des Algériens. Mais ces grandes propriétés, ça ne veut pas dire qu'il y a de très nombreux Français qui vivent à la campagne. D'abord, il y a une concentration de la propriété, et puis vous pouvez aussi avoir des grands propriétaires fonciers qui vivent en ville. Donc majoritairement, l'Algérie française des Français d'Algérie, c'est une Algérie urbaine. Quand on regarde des cartes, là je suis désolée de ne pas avoir fait le PowerPoint, de la répartition des Français d'Algérie, ils vivaient majoritairement, bien sûr il y avait des Français d'Algérie dans les campagnes, majoritairement dans des poches qui étaient situées sur le littoral. C'est Alger, c'est Oran, c'est Annaba et qui forment, il y en a dans Kamel Kateb des cartes de la répartition, voilà. Et à l'inverse, les Algériens, ils sont aux trois quarts à la campagne. Alors bien évidemment, ces poches urbaines, elles ouvraient des possibilités de rapports sociaux toujours marqué sous le sceau d'une certaine inégalité parce que les droits politiques et juridiques sont restés ceux que j'ai exposés jusqu'à la fin ou pas loin de la fin. Mais par exemple, si on regarde la scolarisation, globalement en 1954, vous avez 15% des petits Algériens en âge d'être scolarisés qui le sont, mais vous avez une disparité énorme entre les villes et les campagnes. Et à Alger, au niveau de l'école primaire, tous les petits garçons, petits garçons algériens sont scolarisés. Donc, si un Français d'Algérie vous raconte qu'il allait à l'école avec des Algériens, il ne faut pas lui dire c'est complètement nostalgique, menteur, c'est pas vrai, ils n'allaient pas à l'école. Lui, c'est son vécu. À Alger, c'est la réalité du vécu. À l'école primaire, les petits garçons algériens allaient tous à l'école. Après, quand on monte dans les degrés de la scolarisation, évidemment, plus on monte, moins il y en a, bien sûr. Hein. Mais au niveau de l'école primaire, c'est une réalité. Hein. Donc, je voulais insister là-dessus, même si je n'ai pas beaucoup de temps, hein, pour dire qu'il y a vraiment, il y a peut-être deux Algéries qui existaient, celle des Français d'Algérie du fait de leur de cette répartition spatiale qui est pas volontaire, hein, c'est pas un ghetto, c'est pas une ségrégation, c'est de fait les Français d'Algérie ont toujours été majoritairement urbains et du coup ça a des conséquences sur la façon dont ils vous parlent de l'Algérie française, hein, mais si vous prenez Alger, c'est un faux microcosme de l'Algérie coloniale, mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui vivait à Alger après 45, qu'il vous raconte n'importe quoi. Simplement, c'est son vécu réellement. Hein. Voilà. Alors, ça a des conséquences aussi en termes de revenus et de métiers. Hein, parce que quand on habite en ville, bien évidemment, on n'exerce pas les mêmes professions que quand on habite à la campagne. Et donc, en ville, c'est là que vous allez trouver, évidemment, pour les Français d'Algérie, ce petit peuple de Français d'Algérie, employés, petits fonctionnaires, dockers, etc. Hein, pas les grands colons, bien sûr, ils incitent tout le temps là-dessus. Mais chez les Algériens, ce ne sont pas ces professions-là qui l'emportent. Les Algériens sont majoritairement des ruraux confrontés à un sous-emploi chronique dans les campagnes, d'où l'émigration vers les villes avec les bidonvilles. Les villes comme Alger font face, hein, à une croissance très très forte à partir de l'entre-deux-guerres avec un exode rural important, et c'est aussi l'explication de l'émigration vers la France, la misère des campagnes algériennes. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, et donc bien, on peut laisser du temps à la discussion, je crois que c'était la volonté, et puis Annick vous dira plus de choses peut-être sur la société coloniale la semaine prochaine.